Bonsoir tout le monde. Du coup, on est toujours à courte échelle comme tous les dimanches soirs. On est plein ce soir.
Ouais,
on entend. Du coup, vous écoutez La Courte Échelle, une émission de 19h à 20h et plus ce soir. Si on déborde, il n'y a pas de problème vu qu'on n'est pas suivi. Par une autre émission.
Parce qu'à la preuve, on est très suivi.
Ouais, grave. Et émission contre toutes les prisons et grosse force à toutes les personnes qui sont incarcérées actuellement et qui nous écoutent, on espère, et à leurs familles. Pour nous appeler en direct, on a le fixe qui marche à galère, c'est le 04 91 08 28 10. Et on a aussi une adresse postale, c'est à la Friche Belle de Mai, Radio Galère, 12 rue François Simon, 13003 Marseille. Et il y a un mail, si jamais, c'est la-courte-échelle@riseup.net. Ce soir, donc, on est plein. Il y a Gaïa qui est là.
Ciao.
Il y a Liane.
Coucou.
On a des personnes du collectif Anticrade Marseille qui sont un peu loin des micros, mais peut-être qu'on les salue. En tout cas, j'annonce que vous êtes là, Muriel, Alban et ses quatre. Et sinon, il y a des auditeuristes qui nous écoutent, et il y a moi, Madou, et il y a Charlie qui est juste là.
Salut.
On a une émission qui est bien dense, notamment en écho à la journée de solidarité avec les prisonnières et les prisonniers transgenres. Et puis, peut-être qu'on va démarrer par un vocal d'un pote que sûrement vous connaissez, qui s'appelle Kémy, qui nous écrit souvent et qui là a fait un vocal pour parler de sa situation actuelle à Moulins.
Et du coup, on va commencer par envoyer son vocal où il nous raconte ce qui se passe en ce moment et on vous retrouve après. Ça part.
Coucou tout le monde, c'est Kémy. Je vous laisse ce petit message pour vous dire que depuis jeudi, je fais la grève de la faim. Donc voilà, donc je vous le dis, je fais la grève de la faim pour obtenir mon transfert en CD. Je commence ma 15e année de détention. Il m'en reste 6, ça fait 4 ans que je suis aménageable. Ils me donnent pas de permission, j'ai pas accès à une soi-disant réinsertion, comme ils appellent ça. Donc voilà, je décide de faire la grève de la faim pour essayer de me faire entendre. Je dis bien essayer parce que c'est pas certain, c'est pas assuré, mais bon, au moins je tente quelque chose et ça m'évitera de faire quelque chose que je pourrais regretter par après. Donc voilà, je fais la grève de la faim pour un transfert, pour m'enlever cette gestion isolée en détention ordinaire et pour pouvoir garder l'espoir de sortir de prison un jour. Voilà, et un gros big up à tout le monde, un gros big up à mes amis qui me soutiennent. Je vous remercie pour tout, franchement sans vous, je crois que voilà, on se comprend. Et puis j'aimerais surtout faire un message pour les gens à l'extérieur. C'est faut écouter la voix des détenus. On n'est pas des monstres, on n'est pas des animaux, on est des êtres humains. Moi mon nom c'est Gilgelman, mon prénom c'est Michael. Je suis pas qu'un simple numéro d'écrou, je suis pas qu'un simple pseudo, je suis un être humain qui là tente un dernier geste de désespoir pour me faire entendre et en espérant obtenir enfin un transfert en CD pour avoir une chance de me réinsérer entre guillemets et d'avoir un espoir de sortir de prison un jour. Donc voilà. Et faut écouter la voix des détenus. C'est pas parce qu'on est en prison que forcément on est des mauvaises personnes. Voilà. Encore une fois, un gros big up à tous mes amis. J'espère que mon action servira à quelque chose, que ce soit pour moi ou que ce soit pour d'autres détenus, soit femmes ou détenus ou hommes ou même mineurs. Mais voilà. Et s'il y a des détenus qui nous ont qui entendent, faut pas faire des trucs, faut pas faire ça, faut pas mettre sa vie en danger. Moi c'est mon dernier recours, c'est pour ça que je le fais. Voilà, je fais un gros big up à tout le monde, je fais un gros big up à tous mes amis, tous et toutes mes amis. Je vous aime fort, je vous aime de ouf. Et sans vous, j'aurais déjà fait une connerie. Voilà, c'était Kémy et j'espère que le plus de monde possible entendra ce message. Voilà, au revoir, ciao ciao. Et
du coup voilà pour les nouvelles qu'il nous a données. On avait aussi envie de vous lire un texte qui a été écrit par par les proches de Kémy, du coup, qui reparlent de ce qu'il vit et de cette urgence, quoi. Ça commence par urgence, grève de la faim à la prison de Moulins-Isère. Actuellement prisonnier à la centrale de Moulins-Isère, Michael Gilgenman est incarcéré depuis 14 ans, dont il a passé la plus grande partie en centrale, prison sécuritaire. Cela fait 4 ans qu'il aurait pu bénéficier d'un aménagement de peine et il est libérable dans 6 ans. À son arrivée à Moulins, Michael avait été sorti de l'isolement qu'il subissait depuis de longues années, mais depuis 6 mois, il a de nouveau été soumis à ce régime. La direction lui a promis son transfert vers un centre de détention, un type de prison où il est, en principe, moins difficile d'obtenir une libération conditionnelle, contrairement aux maisons centrales bien plus sécuritaires. L'administration disait que sa sortie de l'isolement serait envisageable après ce transfert, mais en dépit de ses promesses répétées, il a appris ce 22 janvier que le transfert n'aurait pas lieu et qu'il n'aurait même pas été envisagé. Michael a immédiatement commencé une grève de la faim et de la soif dès le jeudi 22 janvier à midi. Il ne reçoit pas le suivi médical nécessaire et son état de santé se dégrade très rapidement. Vendredi, une infirmière a constaté son état. En 24 heures, il avait déjà perdu 2 kilos. Sa santé s'est encore détériorée samedi 24 janvier et il commençait à avoir des douleurs dans les reins. Michael a décidé d'arrêter sa grève de la soif, mais continue sa grève de la faim jusqu'au bout, malgré son état de santé déjà préoccupant, pour maintenir un rapport de force avec l'administration pénitentiaire. Il est déterminé dans cette lutte qu'il considère comme un dernier recours. Nous sommes préoccupés par l'état de santé de Michael. Précisons ici clairement qu'il n'est pas du tout suicidaire. Si la direction du centre pénitentiaire de Moulins-Isère n'agit pas au plus vite auprès de son administration pour accéder à ses demandes, transfert et levée de l'isolement, et s'il ne fait pas l'objet d'une prise en charge médicale adaptée, elle portera l'entière responsabilité des séquelles sur son état de santé. Du coup, bah, ce texte a été écrit parce que bah, la situation est grave, que la paix est grave foutue de sa gueule, et on avait aussi envie de vous donner cette info que en fait, c'est possible d'appeler la direction de Moulins, je donne le numéro, au 04 70 35 15 00, je répète, 04 70 35 15 00. Et en fait, ça aide Mika à pas être seule dans sa lutte. Harceler la tôle, ça peut lui permettre de le soutenir et de pouvoir être écouté par la direction. Bah, du coup, à la courte échelle, en fait, on vous invite à aller harceler. Je redonne le numéro de téléphone, c'est 04 70 35 15 00. Et les dernières nouvelles qu'on a, c'est qu'il a perdu 4 kilos en 2 jours. Il continue de boire Il a été pris en entretien avec la brigadière chef. Et ça, c'est parce que ça a appelé et harcelé la tôle et que du coup, ça a fini par lui donner un rendez-vous, quand bien même la détention, la paix était au courant de tout ce qui se passait. C'est seulement après les appels qu'il a pu avoir ce RDV. Et on imagine. Et du coup, sa demande principale, c'est qu'on continue à appeler la tôle et qu'on relaie ses mots. Et il nous remercie, il passe le big up et nous, on lui envoie plein de force. Et on est avec toi, Mika. Voilà. Du coup, ça, c'était ce qu'on avait à dire. Je ne sais pas si vous avez envie de dire quelque chose.
Non, grosse force à lui.
Ouais, juste plein de force.
Ouais.
Et on voulait continuer l'émission en réexpliquant c'est quoi le contexte de la journée de solidarité pour les prisonniers et les prisonnières trans. Et expliquer comment c'est né et pourquoi on en parle ce soir. Et on va aussi lire une lettre qui explique ça.
Ouais, du coup, très rapidement, et puis je préfère lire la lettre et laisser parler, du coup, les mots d'une autre personne. Cette journée est a un peu été faite aussi à l'initiative d'un prisonnier trans aux États-Unis, Marius Mason, qui est un prisonnier anarchiste et antispéciste qui a pris une peine de 22 ans de prison pour des actes de dégradation de biens pour des actions antispécistes qu'il a fait. Et il a fait son coming out en tant que personne trans en 2014 et depuis ce moment-là il se mobilise dans la prison pour faire avancer un peu des revendications sur l'emprisonnement des personnes trans. Et il est à l'initiative de cette journée qui a été créée en 2016, une journée d'action et de solidarité avec les prisonniers et prisonnières trans. Et la lettre que je vais lire a été écrite par Marius Maison donc, à l'occasion de l'appel annuel pour la journée internationale de solidarité avec lui et tous les prisonniers et prisonnières anarchistes de longue peine. Et qui est donc chaque année le 11 juin. Et il a donc fait cette déclaration que je vais lire. Je salue et je remercie chaleureusement ma communauté. Je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui m'ont écrit une lettre de soutien ou qui ont participé à un événement de soutien au cours de l'année. Merci beaucoup. Je sais que votre solidarité apporte beaucoup de force et d'amour à celles qui résistent en prison. J'aurais aimé pouvoir répondre à toutes les lettres que j'ai reçues. Je vais ajouter plusieurs nouveaux contacts à ma liste de correspondance et répondre autant que possible. Cette année a été difficile pour moi. Ma quête de 12 ans pour obtenir une chirurgie de genre a été brusquement interrompue par une administration dont la seule mission sont la haine et la division. À la veille de l'opération, après m'être intégrée avec succès pendant des années à une population carcérale majoritairement masculine, j'étais kidnappée sans ménagement et j'étais dans le SHU en raison d'un décret rendant mon genre illégal et effaçant mes droits en tant que citoyen. Depuis lors, j'ai été transférée dans une prison à population majoritairement féminine, le Federal Satellite Law, à Danbury, dans le Connecticut. Cela a nécessité une adaptation sur le plan social, mais ma communauté ici m'a très bien accueillie et m'a apporté son soutien. Je travaille comme père aidante dans le cadre d'un programme intégré de traitement de traumatisme et des addictions. Cela me semble utile, car tant de personnes perdent le contrôle de leur vie, et souvent même leur vie, à cause des problèmes d'addiction non traités. Je pense sincèrement que cette épidémie internationale trouve son origine dans le sentiment de désespoir et d'aliénation que tant de personnes ressentent actuellement. L'année a été intense pour toutes les communautés de résistance, qu'il s'agisse de la guerre contre Gaza ou de la guerre contre les personnes migrantes. Nous avons eu du mal à apporter notre soutien à celles d'entre nous qui ont souffert des attaques de plus en plus nombreuses contre les femmes, les personnes migrantes, les personnes trans et les personnes queer. Les 6 derniers mois ont été une marche militaire en arrière dans l'évolution humaine, car même les accords sociaux les plus fondamentaux sur les droits des individus dans une société ont été violés à maintes reprises. Les droits garantis lors de la signature de la Magna Carta, droits qui étaient au cœur du conflit entre l'Angleterre et les anciennes colonies, sont systématiquement éventrés. Il a été dit que si nous ne tirons pas la leçon de l'histoire, nous sommes condamnés à la répéter. Nous avons déjà vu les prémices du fascisme et nous devrions les reconnaître aujourd'hui. Ces temps sont donc un défi pour toutes celles qui aspirent à une véritable liberté, qui cherchent la justice, qui respectent la dignité humaine et qui persistent à croire que nous sommes responsables les uns des autres, les uns envers les autres et envers notre maison commune, cette terre. La force de relever ce défi viendra de la solidarité. C'est toujours notre arme secrète contre les brutalités vénales du fascisme. Ne lâchez pas et résistez. Amour et solidarité, Marius Maison.
Merci pour la lecture.
Pour continuer l'émission, peut-être... Bah, il y a des potes, des copains de Transvénère 13 qui nous ont fait passer des vocaux pour le direct. Et du coup, bah, on avait bien envie leur redonner la parole. Et je vais passer le premier vocal d'une copine du collectif, un collectif d'Ether. En soutien par et pour des personnes trans à Marseille et ça part pour le vocal.
Je suis une personne de Transvénère 13. Je suis dans l'organisation en vue de notre manifestation anticarcérale à Marseille qui est à mon sens importante par le fait que nous vivons dans un monde où le fascisme revient en force. J'ai tendance à me rappeler mes années au collège, où partout dans l'établissement je prenais la parole afin d'avertir du danger que représente le fascisme. J'étais déjà antifa, sans connaître l'existence de ce mot, mais j'apporterai mon énergie à toute la lutte, qui pour moi en 2026 maintenant, représente un enjeu de premier lieu. Je me rappelle toujours mes années, pendant mes études, dans l'établissement où j'étais, où les copains partageaient des zines dans les espaces publics de l'école. Et je me souviens très bien de « Femmes trans en prison », mise en ligne en juillet 2011 sur Info Kiosque, qui m'avait apporté une première vision de nos vécus au sein des systèmes répressifs carcéraux. Je suis une femme transgenre. Je n'ai encore jamais été enfermée en prison, mais je ne suis pas non plus totalement déconnectée de ce qui arrive à mes sœurs quand elles sont emprisonnées par ces politiques fascistes. La plupart d'entre nous sont envoyés dans des prisons pour hommes afin de servir de jouets sexuels aux détenus les plus dangereux, afin de les calmer pour qu'ils puissent nous violer. On pourra citer l'isolement, les mécaniques mises en œuvre pour qu'on saute la vie dans le plus grand des silences. Tout est pensé pour qu'on ait accès au moins de choses possibles, nous mettant ainsi en grand danger. Pour ce qui est de subvenir à ses propres besoins au niveau de l'accès aux hormones, à l'intérieur de ces prisons, cela ne se fait que dans le cadre où la transidentité est catégorisée en tant que maladie, et rares sont les personnes, une fois de plus, à y avoir accès, au sein de ces systèmes carcéraux. Ce qui se passe dans les prisons est une version plus exacerbée de ce qui se passe pour nous en dehors des prisons, à une échelle beaucoup plus extrême, mais les idées sont les mêmes, nous invisibiliser et nous utiliser. Nous rendre l'accès à nos besoins de moins en moins accessibles pour nos soins, nos hormones, nos demandes de chirurgie, la manière dont nous sommes traités dans la rue comme au sein des institutions, la complexité à faire changer nos états civils, à faire entendre nos voix. De plus, une chose importante à mettre sur le devant de la scène, j'écris en tant que personne blanche, et dans ma vie, même si je ressens et je vois tout cela autour de moi, même si je suis au plus bas de l'échelle sociale, mes sœurs racisées sont confrontées à encore plus de violence dans cette société raciste, impérialiste, colonialiste, patriarcale et capitaliste. Nous vivons dans une société qui devient de plus en plus violente envers nos vies. Nous devenons depuis quelques années maintenant les nouvelles boucs émissaires médiatiques. Rien n'est fait en notre faveur. Toujours plus de violence provenant des politiques qui prennent des choix directement reliés à l'extrême droite. Nos colères tentent d'être tues, mais nous crions toujours plus fort pour nous rendre visibles aux yeux de celles qui voudraient nous voir silencieuses. À l'intérieur des murs, des prisons, nous ne sommes pas seuls. D'autres personnes transgenres sont enfermées. Elles, eux aussi. Je pense aux hommes trans, je pense beaucoup aux personnes encore plus invisibilisées que nous, les personnes non-binaires, à genre intersexes. Je pense à mes adelphes, et notamment à mes sœurs, à celles qui sont enfermées depuis des années, à celles qui viennent de rentrer en prison, à celles qui ont mis fin à leur vie au sein d'un système qui ne leur a apporté aucune aide et à qui on a fait subir les pires violences, à celles qui sont isolées, à celles qui sont dans l'attente de pouvoir peut-être un jour en sortir. Nous sommes fortes, nous sommes fiers, nous sommes en colère. À nous aussi d'ôter les briques des murs des institutions carcérales. À nous aussi de prendre part aux luttes contre le fascisme, contre les flics, les fachos, les collabos, les nazis, les TERFs. Tous contre l'État.
Du coup voilà, pour les premiers mots de Transvénère 13, la copine elle parlait de la manif du 22. Moi je veux bien redire que du coup le 22 février il va y avoir une manif contre la tôle à 16h à la place de la Providence, et qu'après à 19h il y aura un plateau radio pour faire des dédicaces en direct aux prisonniers, prisonnières, et une cantine pour remettre du convivial aussi dans la lutte. Du coup, ça, c'est une petite info en plus à redire. Je voulais aussi redéfinir c'est quoi les TERF. En vrai, je sais pas si toutes les personnes qui nous écoutent captent. Et du coup, ça vient de l'anglais, c'est un acronyme. Et du coup, en français, ça veut dire les féministes radicales qui excluent les personnes trans. Du coup, c'est des personnes soi-disant féministes qui excluent les femmes trans des luttes féministes, qui se basent sur les aspects biologiques pour considérer que les meufs trans ne sont pas des femmes et qu'elles ne partagent pas les mêmes problèmes. Du coup, je ne veux rien redire qu'à la courte échelle, on emmerde ces grandes connasses qu'on déteste profondément. Les TERF et leur violence transphobe, on les méprise, quoi. Du coup, je voulais bien préciser ça, parce que la copine, elle parlait des TERF dans son vocal aussi.
Et en vrai, elles sont très proches du reste des milieux des FAF en France, les TERF. Et du coup, merci beaucoup à toi de Transvénère, à la copine de Transvénère pour son message, il est charmé. Ça fait grave plaisir. que tu l'aies envoyé et que vous nous aidiez aussi à co-construire la date du 22 séchant mai. Merci beaucoup à vous.
Et peut-être on lance le deuxième vous d'un copain de Transvénère 13. Et pas ça part. À tout de suite.
Salut, ici Baka de Transvénère 13. Du coup, je voulais prendre la parole pour reposer un peu notre implication dans les luttes anticarcérales de manière plus globale. Donc bien sûr, on veut améliorer les conditions de détention des personnes trans en prison, mais surtout on veut abolir la prison. Et du coup, on considère que la prison, qu'on vit dans un système totalitaire qui veut enfermer tout ce qui lui fait obstacle, qui veut en fait trier parmi la population qui est entre guillemets normale et qui mérite en fait de servir la nation ou de servir les intérêts de l'État ou des multinationales. Et qui en fait mérite d'être enfermé ou muselé. Du coup, c'est un système qui utilise des abstractions morales pour justifier des lois et des institutions qui protègent un système discriminatoire de classe, de race, d'espèce, de genre. Du coup, oui, on vient justifier la prison aussi pour des questions morales, d'ordre, genre contre les crimes, contre les délits, etc. Mais la vérité, c'est pas du tout ça, c'est qu'en fait on veut pas les délits des pauvres, en plus c'est les délits les moins graves. Parce qu'en fait, les personnes qui font les délits les plus graves, évidemment, c'est celles qui ont le plus de pouvoir. Et celles-là, elles se retrouvent jamais en prison, elles sont jamais inquiétées, elles passent quasi jamais en justice, et même si elles passent en justice, elles n'arrivent pas en prison. Parce que c'est vrai que, en fait, on sait qui est en prison. En fait, c'est une sorte de misandrie raciale, c'est la plupart, c'est des personnes issues de quartiers populaires, qui sont racisées, des hommes, cis. Et donc les personnes trans sont clairement pas majoritaires en prison, même si nous, du coup, on a quand même un focus là-dessus. Et c'est vrai qu'on veut pouvoir intégrer notre pensée aussi dans un truc plus large, des considérations plus larges aussi sur la société. Donc notre question stratégique, un peu comment est-ce qu'on fait à la fois pour limiter la souffrance dans les prisons et à la fois pour les abolir. Ça ressemble un peu à une dichotomie, un antagonisme comme réformisme ou révolution. Et c'est vrai que parfois c'est difficile, c'est un peu délicat, c'est difficile de savoir en fait comment est-ce qu'on fait pour améliorer sans tomber vraiment dans le réformisme pur, sans comment est-ce qu'on fait pour rester révolutionnaire, pour transformer la société et faire en sorte que les prisons cessent d'exister. Et bon, ça c'est une question à laquelle j'ai pas de réponse, mais en tout cas c'est bien de quand même de le mentionner. Donc comment abolir la prison et aussi comment abolir la police, parce qu'en fait la prison c'est quand même le produit de l'État répressif, donc d'abord il y a la police, ensuite il y a la prison, et donc tout ça c'est quand même un système qui fonctionne ensemble, et donc je pense que pour penser l'abolition il faut tout abolir en même temps, quoi. Donc on est aussi dans une période assez historique quand même de fascisation de la société et des institutions. Du coup les cibles numéro 1 évidemment c'est les hommes cis pauvres, issus des quartiers populaires et ou racisés. Mais au regard de ce qui se passe aux USA, etc., j'ai l'impression que ça pourrait aussi fort changer, fort rapidement pour les personnes trans, d'abord, parce qu'on est en haut du panier, on est genre les plus visibles en fait, mais ensuite, ce serait toutes les personnes LGBTQIA+, qui seraient inquiétées, et pas seulement, évidemment, ça va s'étendre à des tas de gens. Je pense que quand on est dans un état... Quand on est dans un état qui se fascise comme ça, finalement la question de la prison, ça devient en fait la question de tout le monde, parce que pour le moment, il y a beaucoup de personnes qui pouvaient se dire que la prison, ça les concernait pas trop, parce qu'en fait, ils risquaient pas d'y aller. Mais je pense que ces personnes se trompent, parce que là, ce qui est en train de se passer, ça va les concerner bientôt. Parce qu'en fait, là, de plus en plus de personnes vont se retrouver en prison, en fait, et pas les personnes habituelles dont en fait tout le monde s'en fout, en tout cas toutes les personnes qui ont le pouvoir. Et je voulais quand même vite faire revenir sur la question de la vulnérabilité des personnes trans face au fascisme. C'est que, en fait, c'est pas juste qu'on est plus visible, même si c'est vrai qu'on est quand même, je pense, visible, mais c'est aussi qu'on a une visibilité médiatique de la part, en fait, de l'extrême droite qui a, s'est pris une sorte de passion transphobe depuis quelques années. Et du coup, c'est aussi ça qui nous rend extrêmement visibles, c'est qu'on est vraiment... On est un sujet médiatique, on est un sujet à scandale, quoi. Et donc, c'est ce qui nous fait tomber, ce qui va nous faire tomber plus rapidement que les autres lettres des LGBTQIA+. Et il suffit de voir aussi, là, aux États-Unis, il y a quand même l'Institut Lemkin, qui est l'institut de veille sur les génocides, qui alerte sur le risque de génocide de personnes trans aux États-Unis. Donc, c'est quand même pas rien ce qui est en train de se passer pour nos communautés, en fait. Mais c'est vrai que quand on parle de prison, en fait, on oublie quand même aussi souvent un peu les différentes strates d'enfermement qui existent, quoi. Donc, oui, bien sûr, il y a les prisons, il y a aussi quand même les hôpitaux psychiatriques, il y a les centres de rétention administrative, t'as les prisons pour mineurs, t'as les unités hospitalières, t'as quand même le bracelet électronique, qui n'est pas une prison, mais qui enferme quand même les gens chez eux. J'ai l'impression qu'il y a aussi toutes ces couches, il y a quand même beaucoup de styles de prisons différentes. Il n'y a pas qu'une seule prison. Et aussi, quand même, on vit dans une société qui normalise quand même l'enfermement, la privation de liberté, le renoncement à l'autodétermination et au choix. Déjà, rien qu'à travail, à travers pardon, le rouleau compresseur de l'école et du travail. Et du coup, ouais, par rapport aux justifications morales de la prison, c'est vrai qu'on vit vraiment dans une société punitive, et je pense que c'est important, mais c'est parce que c'est même dans l'éducation de tout le monde, l'éducation des enfants, l'éducation des animaux, puis l'éducation des adultes, quoi, à travers, du coup, après, c'est la prison. Et donc, on vit vraiment dans une société qui considère la punition comme un outil d'apprentissage, en fait. Tandis que si on voulait vraiment changer les comportements toxiques, dangereux, inacceptables, criminels, on s'y prendrait autrement, en fait, parce que c'est clair que la prison n'a pas vocation, enfin, de toute évidence, ça ne marche pas, quoi. La prison ne change pas, en fait, les comportements problématiques. Et voilà, désolé, mon intervention était hyper longue, mais je vais terminer du coup en disant que, oui, on dit toujours que la justice est aveugle, impartiale, etc., comme si, voilà, elle était juste, en fait. Elle condamne aussi les femmes qui se sont défendues de leurs agresseurs, par exemple. Il y a quelques années, il y a une camarade trans de Toulouse, Jennifer, qui s'est défendue de son partenaire violent en le poignardant, et elle est restée super longtemps en prison, je ne sais plus exactement combien de temps, au moins un an, peut-être deux, je ne sais plus. Donc voilà. Donc on oublie surtout de préciser qu'elle ne flotte pas dans les airs, en fait, cette justice. Elle est positionnée quelque part, elle est située, elle est seulement d'un des deux côtés de la barricade. Voilà. Du coup, ben, merci de m'avoir écouté. Donc, je parlais pour Transvénère 13. Merci pour l'invitation à la courte échelle. Voilà, bon courage à tout le monde, bon courage à toutes les personnes qui sont enfermées. Et ciao.
Merci au pote pour son intervention. On adore les interventions hyper longues. C'était super. Je voulais faire une petite précision à propos des TERF. Je voulais bien redire que parce que j'ai dit que les TERF refusaient les meufs trans, mais en fait elles refusent aussi les mecs trans, car elles estiment que ce sont des traîtres, et c'est important à dire, et que on n'est pas non plus obligé de les coller aux FAF, parce que beaucoup des TERF sont gauchistes et même antiracistes, et qu'il y a des orgas antiracistes en France, plutôt lesbiennes, qui sont largement putophobe et transphobe.
Donc voilà, je voulais rajouter ça.
et merci encore aux copains de Transvénère 13 pour leurs mots. Ça faisait vraiment plaisir de les entendre ce soir.
Grave.
Même c'était hyper carré comme prise de position, le fait que l'atoll, ça structure vraiment une société, et que genre, bah, c'est un peu ce qu'on essaie de dire aussi. Avec ce qu'on est en train de construire pour le 22, que quand il y a une nouvelle prison dans la ville, ça change aussi l'ambiance en général du reste de la société autour qui se carcéralise. Je trouve que le vocal parlait un peu de ça, et que c'était bien dit. Merci beaucoup.
Y a des copines qui voulaient passer ce soir, mais qui n'ont pas pu être là. Et une de ces copines voulait discuter de c'est quoi la tôle quand t'es une meuf trans. On espère qu'on pourra l'écouter une prochaine fois. Parce que c'est pas juste qu'on est quelques jours plus tard la journée de solidarité, que c'est pas un sujet qu'on a envie d'aborder régulièrement, souvent, à la radio. Du coup, hâte de l'écouter une prochaine fois. Et juste pour dire que cette copine, elle est en train de recueillir des témoignages de tolards de transfemmes. Et ça, en vue d'une brochure qu'on a hâte de présenter à la radio. Peut-être on continue l'émission avec des lettres.
Est-ce qu'il y a une adresse pour envoyer témoignage?
Ouais. J'ai pas les infos pour cette future brochure, malheureusement. On va essayer de les chercher pendant l'émission. Mais par contre, il y a un autre appel d'autres copaines qu'on peut donner maintenant. Et je veux bien redire pour la pote après. Ça, c'est un appel qui s'appelle Transperce la tôle. Transperce la tôle. Enfin, tout le monde comprend le jeu de mots. Et c'est, et c'est en vue de créer un outil d'autodéfense face à la prison pour les personnes transfemmes et leurs proches. C'est précisé. Et je veux bien redire que transfemme, c'est pour les personnes assignées mec à la naissance et déviantes de différentes manières vers un genre considéré comme féminin. Les meufs trans, les traves, les pédales, genderfuck, etc. Et du coup, dans leur appel, les copaines, déjà il y a un petit visuel avec une prison qui crame et c'est écrit beau comme une prison qui brûle. Et pour les contacter et envoyer des contributions avant juillet 2026, l'adresse mail c'est transperclatole, donc transperclatole, @riseup.net, riseup.net. Voilà.
Et évidemment, si on reçoit des courriers, on les fera suivre.
Mais grave. Carrément. On avait envie de vous lire une lettre d'un témoignage de haine.
Oui. Carrément. Témoignage de haine qui est un mec trans incarcéré pendant 2 mois à la MAF, donc maison d'arrêt pour femmes à Saïs. Et c'est une lettre qui dit « Coucou, moi c'est N. Je suis un mec trans qui a été incarcéré pendant 2 mois à la maison d'arrêt pour femmes à Saïs, près de Toulouse. À ma connaissance, on était 2 personnes trans à être incarcérées là-bas pendant que j'y étais. Comme l'autorité du centre pénitentiaire a été avec lui, je sais pas du tout parce qu'on était ni à la même promenade, ni au même étage. Du coup, j'ai eu très peu de contact avec lui, finalement. » Du coup, ce que moi j'ai vu, c'est plutôt avec les autres prisonnières de ma promenade, ou quand on se parlait, ou quand je les entendais parler devant ma fenêtre. Et les gens en parlaient beaucoup, beaucoup. C'était un vrai sujet de discussion. Enfin, c'était surtout des trucs de s'il était là-bas, c'était que forcément c'était une meuf, qu'est-ce qu'il avait dans le pantalon, et aussi décortiquer sa vie pour relever les incohérences du genre, enfin voilà. Après, j'ai pas trop vu une confrontation de leur transphobie directe envers lui. Ouais, c'était plutôt dans les discussions entre elles, quoi. En ce qui me concerne, je pense que c'est spécifique, parce que je suis une personne trans pas encore hormonée. Du coup, ça, c'est surtout joué sur le fait qu'on nous en sert dans des stéréotypes de genre méga ancrés et méga forts. Et du coup, là-bas, j'étais une meuf cis, et il y avait même pas de place pour dire que j'étais trans et que j'étais mec. Avec les autres prisonnières, ça faisait un rapport où je ne pouvais pas parler de certaines choses, mais aussi je devais toujours faire semblant d'être distant émotionnellement quand ça parlait de transidentité ou quand ça disait des trucs transphobes, alors que parfois ça me touchait personnellement. Pendant les fouilles chez les psys, les psychiatres, les infirmiers, à la fois je ne pouvais pas en parler, aussi parce que je ne voulais pas, mais aussi je devais dealer le fait que ces personnes me touchent, d'être genrées en elles, dans ce qu'elles disent en permanence, d'être envoyées à une meuf cis tout le temps. Bah ouais, je pense que ça fait un rapport bizarre avec moi-même et aussi avec ma relation à mon corps, quoi. Ce qui m'a marqué aussi, c'est comment des choses pas si importantes que ça à l'extérieur le sont devenues en tol. Un exemple qui me vient en tête là, c'est les fringues où à l'extérieur, comme j'aime bien les imprimer, les jupes, les hauts serrés, plutôt des fringues qu'on associe aux meufs, et que là, je trouvais ça chiant, j'avais plutôt envie de cacher mes seins, d'avoir des épaules un peu plus carrées, de porter des vêtements plutôt masculins. Et aussi pendant 2 mois, j'ai eu pas mal de soutien depuis l'extérieur. J'ai eu plein de lettres et où je pouvais parler de ce que je traversais. On continuait à me genrer au masculin. On m'envoyait des textes écrits par des personnes transmasculines. Et tout ça, typiquement, c'est des choses qui m'ont fait vraiment du bien. Et aussi, c'est des questions que je me suis posées après ma sortie. C'est quoi les spécificités dans le soutien d'une personne trans ? Parce que je pense que pour reprendre l'exemple des fringues, je pense que certains types de fringues, ça aurait aidé à avoir moins de dysphorie de genre. Du coup, alors améliorer ma santé mentale là-dedans. Aussi, que les personnes continuent à me genrer au masculin, que des gens aussi me posaient des questions, comment je me sentais par rapport à tout ça. Je pense que c'est des petits trucs, mais ça a quand même changé mon quotidien là-dedans pour moi. Et ouais, en tout cas, ça m'a vraiment fait réfléchir à aussi comment soutenir une personne trans, quoi. Et c'est un témoignage audio, c'est pour ça peut-être que mes points étaient un peu étranges et la lecture était un peu galère. C'était présent dans un podcast de Carapatage sur la transidentité en prison. Voilà, c'est le témoignage qui vient de la MAF de Seis. Qui, j'espère, était... On a un appel à l'antenne et peut-être qu'on peut enchaîner avec une prochaine lecture en attendant qu'on arrive.
Non, l'appel n'a pas marché. Si jamais il y a une personne qui va appeler en direct, c'est le 04 80 08 28 10. Je sais pas s'il y a eu un bug ou quoi.
C'était une première lettre qu'on avait envie de lire à l'antenne, un témoignage qu'on a lu à l'antenne. Est-ce que peut-être on continue avec un appel en direct.
Allô.
Moi, je vais attraper ça. On a donc un deuxième témoignage qui vient d'une personne incarcérée qui s'appelle S. Et il y a un trigger warning quand même dans le texte qui contient des passages à propos d'inceste et de viol. Peut-être, si c'est pas le moment d'entendre ça, vous pouvez revenir plus tard dans une dizaine de minutes.
C'est une lettre qui fait une quinzaine de pages, du coup on a choisi des bouts et c'est pas forcément les parties qu'on va aborder ce soir. On va parler d'autres trucs que la personne disait dans cette lettre. Allô. Je suis S. J'ai fait une longue peine de tôle dans différents établissements, des centres pour femmes. Je me présente un peu sur mon identité globale. Je suis un mec trans et au niveau de ma sexualité, je suis bi. Je pense que quoi qu'en disent les psys et la société, moi j'ai toujours été comme ça. Ce ne sont pas les traumas dans ma vie qui font que ma sexualité a été orientée, et ça c'est certain, ni mon identité de genre. C'est plutôt le fait de vivre des violences en tant que personne née avec un vagin qui a plutôt foutu la merde dans ma tête. Voilà, mais ça n'a pas orienté quoi que ce soit. Je suis sortie avec des meufs, pas parce que j'ai été violée et que depuis je ne supporte plus les mecs. Je pense que dès l'école, on peut voir comment l'institution genre vraiment les personnes, d'un côté binaire, et ça, c'est encore plus exacerbé en tôle. Il y a plein de violences qu'on peut recevoir sans comprendre à quoi ça correspond socialement. On voulait lire dans la suite de la lettre. Il y a S qui précise qu'en fait il faut pas que les relations entre personnes détenues, il faut pas que ça sache par rapport aux surveillantes. Du coup, il y a aussi le fait qu'il faut pas trop que ça sache parce que ça va être un levier pour te faire pression. Par exemple, tu vas moins choisir avec qui tu vas être en cellule, et c'est ce que j'ai constaté par la suite. Il y a aussi des surveillantes qui te font des blagues, qui sont clairement dégoûtées par toi. Avec une de mes co-détenues, on s'est vraiment affiché, on était en mode on va dans la cour, on se roule des galoches, on est dans la même cellule, on baise et on s'en fout. Du coup, il y a des surveillantes qui ont grave changé de comportement avec moi. En plus, je n'avais pas un rapport très amical avec elles. Dès qu'elles rentraient, je leur faisais écouter I Shot the Sheriff ou des trucs comme ça, je me marrais à faire ça, ou je ne parlais pas du tout. Et alors, elles étaient graves sur des modes de rage, graves. Et c'était très, très cool. Est-ce qu'on arrive à parler avec la personne qui nous appelle ou pas? On va chercher... Je cherche le numéro d'un téléphone portable, mais il faut aller chercher ce téléphone portable qui est dans la boîte. Et on va donner un numéro de téléphone parce que ça marche pas avec le fixe. Ah, attendez, on voit un message. Appuyez carré, biter au-dessus, montez à ligne 1. On va donner le numéro de téléphone parce que le fixe c'est galère, parce qu'on galère tout le temps à Radio Galère, voilà.
Comme son nom l'indique.
Et du coup, bah, le numéro du téléphone, ça va être le 07 74 66 10 42. Je répète, c'est le 07 74 66 10 42. On croise les doigts pour qu'il y ait de la batterie. Sinon, on va finir par y arriver sur le fixe, quoi.
Et sinon, si tu veux, en attendant, peut-être on prendra un peu le relais dedans.
On peut continuer. Avec le bout de la même lettre.
Je viens vous filer la lettre, alors.
Ça marche.
C'est pas ça ?
Non. Ok.
Non, c'est pas la même ?
Si, si, mais du coup, on...
Vas-y. Et du coup, des autres bouts de la même lettre. Et la tôle a une odeur, elle pue. Tu ne vois jamais très loin. Au niveau sonore, c'est hyper oppressif. La bouffe est dégueulasse. Tu ne prends pas de plaisir à bouffer, au final, le cul fait que tu peux survivre. Sans parler de cul, c'est un truc de malade. Deux mains qui se touchent, les peaux qui s'effleurent, sentir l'odeur de quelqu'un d'autre. Ça te manque. Quand tu es à l'isolement, tu ne peux même pas. Enfin, c'est inimaginable. Des fois, je n'arrivais pas à dormir. Je m'imaginais être dans les bras de quelqu'un, très très fort, pour pouvoir m'endormir. Mais c'est juste dans ton imaginaire. Du coup, il y a de la tendresse entre les contenus, sans parler de séduction, sensualité, cul ou quoi. Il y a de la violence, c'est sûr, mais il y a de la tendresse aussi. Je ne parle que de mon expérience, car en fait, je ne peux pas parler d'autre chose. Par exemple, quand je suis tombée, je pleurais. C'était un truc de ouf. D'abord, j'ai fait 15 jours d'hôpital psy. Après, ils m'ont refoutu un tôle et vraiment, je pleurais, vraiment beaucoup. Ma co-détenue ne parlait pas français. Moi, je ne parlais ni anglais ni espagnol. Ce n'était pas simple pour communiquer au départ. À un moment, elle a juste passé sa main ici, là. Elle m'a fait ça et ça m'a réconforté d'une force. C'était puissant. Il y avait aussi ce sentiment-là. Si tu plonges dans ton désespoir, moi aussi, je vais plonger dans mon désespoir. Donc, il faut qu'on tienne. On n'a pas le choix. J'ai aussi vu des meufs se foutre de la gueule d'autres meufs qui pétaient les plombs. Ça existe aussi, mais je trouve qu'un centre de détention, il y a de la solidarité entre les personnes. Par exemple, il y avait une personne qui avait pris 25 piges avec une peine de sûreté de 15 ans. Elle était détruite, cachetonnée à un fond. Un jour, elle devait aller au parloir voir son fils. Elle avait du vomi sur elle. On l'a amenée dans notre cellule avec elle, on l'a nettoyée, maquillée, on lui a prêté une robe et elle est partie au parloir. Il y a ce truc de dire que tu vas assumer ton rôle de mère. Ton gamin n'a pas choisi que tu sois là. Pour lui, tu vas tenir. Pour moi, il n'y a que la solidarité qui peut rendre supportable des situations inhumaines. Plusieurs personnes de la détention étaient sur ce mode-là, à faire des petites choses invisibles. Par exemple, quand quelqu'une pleure, on lui passe des clopes, on essaie de la mettre bien. Par rapport à ça, je trouve que c'était assez fort. L'enfermement amène une sincérité, une franchise. Tu n'as plus de temps à perdre, tu es obligé d'être cash, d'apprendre où tu n'as pas le temps de mentir, minauder. Ça amène une authenticité dans les rapports qui me manquent maintenant. J'ai grandi là-dedans, j'ai construit une part de ma manière de relationner et de voir le monde à ce moment-là. Avant d'aller en tôle, je ne sais pas combien de tentatives de suicide j'ai pu faire. C'était énorme. Ce tatouage-là veut dire « Enrichissons-nous de nos différences ». Je l'ai fait sur ces cicatrices en me disant « Si je veux m'insérer plus tard, ce sera plus facile ». J'ai arrêté de me découper parce qu'il y a des femmes qui m'ont porté, qui m'ont aidé. Des personnes avec qui je n'aurais jamais soupçonné échanger, avoir des liens qui ont de la valeur. C'est pour ça que j'ai fait ce tatouage sur ces cicatrices, pour m'en rappeler. Ça peut paraître incongru pour plein de gens, mais mes liens affectifs, je les ai construits en tôle. Je me rends bien compte que ça a aussi changé des choses. J'ai plus de mal à parler quand on est plus nombreux, ou alors faut qu'on soit très nombreux et que je sois un peu bourré. Par contre, il existe quand même des rapports de force que tu crées en tôle, des habitudes que tu gardes. Moi, je me défends et je considère qu'ils nous traitent comme des chiens. On n'a plus aucun droit. Les matons font ce qu'ils veulent avec nous, mais ça va pas du tout aller. Moi, j'ai envie de vivre. Alors, on ne va pas me faire chier. Que ce soit la paix ou les autres détenus. Mais ça ne marche pas comme ça à la vie. C'est très dangereux. Par exemple, quand les iris sont arrivés dans notre cellule avec ma pote, on s'est retrouvés avec 6 gars en face de nous, surarmés. Alors on s'est défendu, car sinon on risquait de crever. C'est ça qu'écrit principalement la prison, et ça craint. À des moments, j'ai plus les ressources nécessaires. Je n'ai pas appris à mettre des mots sur certaines émotions, à transformer la violence en autre chose. On va terminer. T'aurais envie de dire un truc en conclusion ? Eh bah, en conclusion, je me rappellerai toute ma vie que les plus grosses crapules, elles ne sont pas derrière les barreaux. S'il y a des personnes qui vont en taule et qui lisent ces mots, rappelez-vous que ce sont les matons les ennemis, qu'un bleu reste un bleu même s'il te parle bien, même s'il te fait de petits cadeaux. S'il a l'ordre de te péter la gueule, il te pètera toujours la gueule. Ne pense jamais qu'un flic ou un maton soit un de tes potes. Jamais, jamais, jamais.
Merci pour la lecture. Désolé pour la lecture qui a été un petit peu entrecoupée par les appels. Mais la lettre est grave bien. Peut-être que on lui refera honneur en la relisant une prochaine fois dans son intégralité. Est-ce que... Je ne sais pas si du côté de la régie, ça avance en termes d'appel.
On a un appel qui on essaie d'avoir, mais pour l'instant, on n'y arrive pas.
Est-ce que vous voulez qu'en attendant, on continue à lire des lettres ?
Ouais, grave. On a proposé d'autres solutions, voir si ça marche.
On passe un petit son ?
Ouais, carrément.
Comme ça...
Alors, il n'y a pas de son de prix. Est-ce que vous avez une idée d'un truc qu'on peut mettre ? Sinon, je mets SS, enfin.
Vas-y, mets ça.
C'est très bien.
Mets SS de Sosomanes.
Les bons meufs, les bons meufs. Lune, le Ponté, la Farlette, Rennes, Corba, Nice, Montpellier, toutes les prisons de France. Faites péter, faites péter, faites péter. Je suis libérable. C'est un soir maintenant qui fait des flexions. Sois raisonnable, la tôle n'est pas encore à ton daron. Ce morceau c'est pour les RSS qui font les chansons des ten des ten. Mon Dieu, si je te croise dans ma tête, ça risquerait de faire bang bang bang. RSS t'as pas honte, tu bouffes la gamelle. J'ai ma feuille de compte et mon iPhone 6 dans les semelles. La tôle une passoire, bientôt vous aussi. Dans la bouche pas de rasoir, j'ai un 12e pote de Russie. Promenade, parloir, garage, flexion. Drapeau, mission, la tôle elle est sous tension. Coursive, prétoire, refus, permission. Jana, traction, la tôle elle est sous tension. SS, ouvre la porte, SS, tourne la clé. 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 Ce matin c'est une pute, il est bon qu'à regarder des buts. Son métier c'est de la merde et dans son compte n'a pas de fric. Poto réveille-toi, change de boulot. J'suis en féfé au checker, j'bois du dompé au boulot. J'reçois ta paye en pécule, toute la journée je touche tes testicules. J'suis mieux que toi en cellule, à une SS je fais prendre la pilule. Manette sans bombette, ma peine sur un pied. Vous avez pris perpète. J'ai fait des billets. Promenade, parloir, garage, flexion. Drapeau, mission. La tôle elle est sous tension. Coursive, prétoire, refus, permission. Jana, traction. La tôle elle est sous tension. SS, ouvre la porte. SS, tourne la clé. 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 Surveillant, surveillant s'il vous plaît. À la V06 s'il vous plaît. Ah, vous voulez pas venir? Ah, c'est comme ça. Surveillant, évaniquez-moi.
Et ouais, surveillant, va niquer tes morts. Et on continue avec une petite pause musicale. Wesh Wesh de Gambino. Et on revient toujours sur la courte échelle.
Qui font tout rentrer. Je suis dans les quartiers nord, je suis posé faire la belle. Écris la fusée, c'est comment je m'appelle. Mais dans ma ville, ça découpe des lamelles. Mêle, mêle, mêle. Arrive à son temps, on va mettre la lune. MPGP le sort à faire la.
Et re-salut, on est toujours sur la courte échelle Radio contre l'Atoll, contre toutes les prisons. Il y a une personne qui a essayé de nous appeler en direct plusieurs fois et bah du coup on a vérifié les appels, ça marche. Du coup je sais pas si tu nous écoutes, peut-être si t'as un autre téléphone pour nous appeler et on a un numéro, tu peux nous appeler en direct, c'est le 07 74 66 10 42, si tu as la possibilité d'essayer avec un autre téléphone. Et on a reçu un message de toi qu'on va lire.
Ouais, donc c'est la sœur de Camélia qui est enfermée depuis 2 ans et qui s'est fait taper par les bleus. Je voulais lui envoyer plein de force, je pense à toi très 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 fort, je t'aime. Merci la radio pour ce que vous faites, ça c'est pour nous, mais c'est surtout pour toi. Sœurette, petite souris, t'as écrit, elle pense fort à toi. On t'embrasse. Et fais comme un ton de merde. Et il y a une musique qu'on va passer tout de suite. C'est Petit Frère de Jules. Voilà. Et ben merci d'avoir essayé de nous joindre. On espère qu'il y a moyen de te recevoir à l'antenne. Si t'as toujours envie de passer un mot de par ta propre voix. Et sinon, on envoie le son.
Désolée pour les bugs techniques. Ça part pour Petit Frère de Jules.
Matrix à la pointe. Tu vois, on a plus 15 ans. Faut pas que les suites nous mettent les pinces. Je les connais tous maintenant. Les jaloux aimeraient qu'on se prenne 20 ans. Oh, petit frère, on se prend moins depuis qu'on est plus chez maman. Oh, petit frère, je me fais du souci pour toi en ce moment. Oh, petit frère, envoie-moi un message quand t'es rentré. Ah, petit frère, si t'arrives quelque chose, c'est moi qui vais me ganter. Et si j'ai les yeux rouges, c'est que j'ai des problèmes et que j'aime pas en parler. Tu frère, des fois je t'en fous, j'ai envie de faire du mal à ceux qui nous embellent et de m'en aller. Et je me rappelle, on jouait sur la place. Tous les jours, tu regardais Scarface. Et quand tu étais en prison, je dormais sur ton lit, je gardais ta place. Gardais ta place. Je garde ta place. Je garde ta place. Oh, petit frère, on se prend moins depuis qu'on est plus chez maman. Oh, petit frère, je me fais du souci pour toi en ce moment. Oh, petit frère, envoie-moi un message quand t'es rentré. Oh, petit frère, si t'arrives quelque chose, c'est moi qui vais me ganter. Mon frère, mon Sancho, mon ami, mon tout. Mon frère, mon allié, en cas de blême, il me coupe. Mon frère, celui qui se jette pour moi dans le gouffre. Mon frère, celui qui m'aime et pas besoin qu'il me prouve. Mon frère, mon Sancho, mon ami, mon tout. Mon frère, mon allié, en cas de blême, il me coupe. Mon frère, celui qui se jette pour moi dans le gouffre. Mon frère, celui qui m'aime et pas besoin qu'il me prouve. Oh, petit frère, on se prend moins depuis qu'on est plus chez maman. Oh, petit frère, je me fais du souci pour toi en ce moment. Oh, petit frère, envoie-moi un message quand t'es rentré. Oh, petit frère, si t'arrives quelque chose, c'est moi qui vais me ganter.
Et coucou, vous êtes toujours sur Radio Galère 88.4, émission de la courte échelle. Et ça fait presque une heure qu'on est là. Du coup, ce soir, c'était, enfin, cette semaine, il y avait une date de soutien aux personnes transentoles et on a dédié une très grosse partie de l'émission à ça pour envoyer plein de force. Mais sans doute qu'on en reparlera dans des prochaines semaines, dans des prochaines émissions. Là, on voulait maintenant faire un petit point sur ce qui passe notamment au Crâne Marseille avec nos invités de l'Anticra.
Salut.
Coucou.
Salut.
Et bah, c'est
ouais,
parti.
Les micros étaient pas bien mis, pardon.
Salut, salut.
Salut.
Salut, coucou.
Ouais, désolé.
Bah, peut-être tu veux commencer à présenter ce que c'est un CRA.
Oui, en fait, si on est là avec le collectif Anticra de Marseille, c'est qu'on avait envie de parler un peu plus régulièrement de ce qui se passait à l'intérieur des CRA, du coup des centres de rétention administrative. Il y en a un peu partout en France et il y en a un à Marseille. En fait, la plupart des personnes passent devant, enfin énormément de personnes passent devant ce lieu-là sans savoir que dans un bâtiment qui est à l'entrée de Marseille, au bord de la A7, en fait, il y a une prison. Une prison pour les personnes qui n'ont pas les papiers ou qui n'ont pas les bons papiers, ce qui semblerait, ce qui serait normalement... pardon, je me suis perdue. Bref, du coup, le centre de rétention administrative, c'est une prison qui n'en dit pas le nom. On appelle ça un centre de rétention. Et c'est une prison qui est pour les personnes qui n'ont pas de papier ou qui ont comme papier un OQTF, du coup une obligation de quitter le territoire français, et qui se retrouvent enfermées le temps d'organiser leur expulsion. Et nous, on est là aujourd'hui pour essayer de faire un peu de lien, notamment entre le CRA, le centre de rétention, qui fait partie aussi des luttes anticarcérales.
Ouais, et du coup, bah, l'anti-CRA, ce qu'on fait surtout, c'est qu'on essaie un peu de sortir la parole et la lutte des personnes qui sont à l'intérieur, à l'extérieur. Parce que c'est pas forcément... hyper, on n'entend pas beaucoup parler en fait des CRA et encore moins de ce que les personnes disent à l'intérieur. Voilà, et pour ça, bah, du coup, on essaye d'avoir le plus de liens possible avec les gens à l'intérieur, pas forcément d'améliorer les conditions, parce que dans l'idée, on veut pas que les CRA existent, mais plus de faire des parloirs pour entendre un peu ce qui se passe à l'intérieur et soutenir. Voilà, et du coup dans cette idée là on va essayer d'être plus sur la courte échelle, peut-être une fois par mois pour
Wow. Ça c'est un engagement.
C'est noté. L'annonce officielle.
Trop bien. Voilà, Muriel, est-ce que tu veux parler de la situation actuelle un peu?
Bah, la situation actuelle, y a rien de très changeant par rapport à d'habitude. Enfin, plusieurs fois il y a eu des choses qui ont été dites sur les CRA. C'est vrai que le CRA de Marseille, c'est un centre avec pour 136 personnes, ce qui fait que c'est quand même un centre qui est quand même assez gros. Et des informations qu'on a en ce moment, c'est qu'il est plein, il est surplein, avec toujours les mêmes conditions de merde. Je veux dire, il n'y a pas forcément d'amélioration en tout ce qui est, par exemple, chauffage et tout ça. Enfin, je veux dire, là, souvent, on a des appels de personnes à l'intérieur qui nous disent, bah, on se les pèle, on n'a toujours pas de couverture, le chauffage, il n'est pas mis, et voire même des fois, quand il est mis, en fait, il est, comment dire, il est mal réglé, ce qui fait qu'en fait, ça continue à être la clim, alors qu'on est au mois de décembre. Donc rien de très nouveau, j'ai envie de dire.
Aucun accès aux soins aussi, ouais. Enfin, ça c'est un peu la classique, mais des Doliprane qui sont censés soigner et tout, et pas forcément de possibilité de voir un médecin, et même quand on voit le médecin, il a pas forcément je sais pas, de traitement ou d'aide particulière à donner aux personnes.
mais plutôt la grande nouvelle qu'il y a eu là il y a récemment, c'était concernant en fait au fait que au CRA de Marseille on s'est rendu compte que en fait ouais il y avait bien bel et bien en fait des meufs qui étaient enfermées à l'intérieur. Pour reprendre un peu l'historique, avant le Covid et pendant le Covid, il y avait possibilité d'avoir contact avec les personnes à l'intérieur du CRA à travers des cabines téléphoniques, et il y en avait une dans chaque cours, et notamment dans celle des zones d'attente, qui les zones d'attente est destinée notamment aux femmes et aux enfants. Et pendant la période du Covid, il me semble que c'était pendant la période du Covid, il n'y a plus accès, il n'y a plus possibilité d'utiliser ces cabines-là. Ce qui fait que nous, avec le collectif, on a dû trouver aussi d'autres moyens pour entrer en contact avec les personnes. Et de fait, on a aussi à ce moment-là perdu contact avec la zone d'attente, et les années passant, il y a même eu un oubli en fait qu'il y avait les zones d'attente. Et ces derniers temps, on recevait pas mal d'informations de la part de gars qui étaient enfermés dans le CRA et qui nous disaient, mais on a entendu des voix de meufs, ouais il y a des meufs et tout en ce moment. Bon, nous on avait du mal à avoir cette information ailleurs, et jusqu'à récemment où en fait un pote avec qui on était bien qui en avait un bon contact, qui nous a dit que il avait vu des noms de meufs inscrits sur un tableau au niveau des keufs, et que en fait quand il a été blessé et qu'il a dû sortir du CRA, il s'est retrouvé dans une ambulance, et l'ambulance d'après qui sortait aussi du CRA, en fait c'était une meuf qui était dedans. Et donc à partir de là, on a commencé un peu à se bouger en se disant ouais, en fait il y a une info qu'on n'a pas, et on a eu confirmation, je crois c'est il y a une semaine ou deux, de la part de Forum Réfugiés qui est à l'intérieur du CRA, et aussi d'une keuf à l'intérieur qui nous a dit, enfin les deux nous ont dit, bah en fait ouais il y a bien assez régulièrement, il y a quand même des femmes qui sont là, qui sont enfermées au CRA de Marseille dans la zone d'attente, la zone d'attente, tu restes moins longtemps que dans un CRA. Alors j'ai pas trop d'idées de combien de temps tu restes. Je crois que c'est quelques jours. Je sais pas si vous avez plus d'infos sur ça.
Ouais, j'aurais dit ouais, max 3-4 jours. Mais...
Ouais.
Mais en gros, sur le principe, c'est un bout de frontière. Enfin, genre, les personnes qui sont placées en CRA, c'est les personnes qui ont une OQTF parce qu'elles étaient déjà sur le territoire, et que soit un titre de séjour qui a expiré, soit une mesure de... Enfin, une condamnation pénale où ils ont eu une ITF ou quelque chose comme ça, ouais, qui font qu'ils étaient en France depuis longtemps ou depuis un petit moment et qu'ils se retrouvent en CRA. Alors que les personnes en zone d'attente, si je ne me trompe pas, c'est les personnes qui sont...
Qui arrivent, quoi. Bah, moi, j'ai des souvenirs qu'avant, c'était souvent proche des... dans les aéroports.
Ouais, c'est ça. Ou aux gares, ou ouais, aux frontières.
Et bien là, à Marseille, du coup, cette zone d'attente, il y en a une, notamment au CRA. Et donc, c'est compliqué d'avoir pour le moment des contacts à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de cabine, vu que c'est des gens qui restent très peu de temps, du coup c'est compliqué. Donc on essaie de creuser pour essayer de comprendre comment on pourrait avoir des contacts avec des personnes qui sont à l'intérieur sans avoir à passer non plus par les grosses structures qui doivent faire un peu d'administratif à l'intérieur. Donc on en profite pour dire que parmi les personnes qui écoutent la radio, vous avez des contacts, ou que vous connaissez des personnes qui ont passé du temps en fait en zone d'attente, bah nous, le collectif Anti-CRA Marseille, on est plutôt chaud et chaude d'avoir des retours pour commencer en fait à réfléchir à ça, enfin qui avait un peu été une part oubliée, je pense, ces dernières années.
Ouais. Peut-être
pour compléter sur la partie femmes en CRA, parce que du coup là il y a des femmes que dans la zone d'attente, mais pas dans la zone CRA du CRA, entre guillemets.
Non.
Et des femmes en CRA ça existe aussi, mais dans très peu de CRA en France.
Et qu'à Marseille elles sont transférées à Nîmes, je crois, c'est ça?
Ça c'est Toulouse.
Ce qui fait que du coup elles sont hyper isolées, elles sont transférées hyper loin de là où elles ont été chopées, et du coup elles sont ultra isolées, quoi.
Éloigné de l'hormif et tout. Je viens de trouver l'info, c'est 26 jours maximum en zone d'attente, c'est plus qu'on s'imagine. 26 jours, ouais. Putain. C'est beaucoup.
C'est énorme.
Alors qu'en CRA...
C'est 90.
Ouais.
Mais du coup, hein, voilà, pour, ça fait une belle transition. C'est vrai que là, aujourd'hui, c'est 90, mais dans les derniers... les dernières lois immigration que voulait faire passer premièrement Darmanin, puis après Retailleau, puis bon bref, c'est dans la grande continuité de ces ministres de l'intérieur de merde. Il y avait eu la proposition de faire passer la rétention à je crois que c'était 210 jours, un truc comme ça, ou un équivalent en fait de ce qui était 6 mois, chose qui a été dans cette proposition de loi immigration, il y a des choses qui ont été rejetées, notamment celle-ci, celle de l'enfermement de 210 jours, 6 mois. Enfin bref, pour ceux qui vont faire un calcul exact, peut-être que 210 jours ça fait pas 6 mois. Bref, là j'ai pas le temps, on n'a pas le temps de faire. Mais il y a une partie de la loi qui a été maintenue, c'était celle, l'objectif de jusqu'en 2027, enfin pour 2027, avoir 3000 places dans les centres de 3000 places de centres de rétention, chose qu'aujourd'hui on en est à moins de 2000. Et je crois qu'on est à 1007, un truc du genre, si quelqu'un a l'info, toi t'as l'info.
C'est moi j'étais encore en train de calculer, en vrai 210.
Si tu calculais les jours,
210,
c'est ça, merde.
C'est 7 fois 30, donc c'est plutôt 7 mois.
Ouais.
Mais c'était quoi l'autre question?
Bref, c'est le de savoir aujourd'hui exactement combien de places en centre de rétention il y avait, parce que l'objectif c'est qu'en 2027, il y ait 300 places.
3000. Et,
ouais, 3000 places, pardon. Il manquait un zéro. Et que du coup, il y avait plein de chantiers en fait en France qui commençaient à se faire un peu partout pour créer en fait ces centres de rétention qui, pour certains en fait, n'existent pas.
Ouais, du coup, il y a des chantiers de nouveaux CRA un peu partout en France. Et du coup, dans les nouvelles un peu réjouissantes, il y a le futur CRA de Bordeaux à Mérignac qui a été vandalisé la mi-janvier. Pardon, je ne suis pas assez proche. Et voilà. Et donc, du coup, il y a eu près de. Enfin, pour 300 000 euros de dommages qui ont été faits. Il y avait des vitres pare-balles qui ont été cassées, des gaines électriques qui ont été sectionnées, des carrelages qui ont été pétés, etc.
Ouais. Trop bien.
Voilà.
Bravo.
Apparemment. Ouais. Je crois que c'est ça, ouais.
Il devait. Par contre, il est quand même censé ouvrir début 2026. Donc ça a apparemment pas arrêté le projet. Mais voilà. Et en tout cas, c'est un peu l'idée de démobilisation en ce moment anti-CRA, parce que du coup les anti-CRA de France sont réunis l'idée c'était un peu de se mobiliser contre notamment les constructions de nouveaux CRA et du coup il y a des mobilisations qui vont s'organiser dans l'année, notamment contre celui de Dijon et ça c'est dans le nord, et celui de Béziers, voilà. Donc si les gens ont envie de donner de la
force. Restez connectés aux informations contre les CRA.
Moi, alors, j'ai pas le nombre de places, mais si vous voulez, j'ai le nombre de personnes qui ont été en CRA l'année dernière.
Ah, et peut-être sur le CRA de Bordeaux, parce qu'en fait, donc ça, c'est celui de Mérignac qui va ouvrir en 2026. Mais à Bordeaux, pour l'instant, il y a un mini CRA qui est le plus petit CRA de France.
Et, 20 places.
Ouais, 20 places dans le sous-sol du Comico, donc en dessous des salles de garde-ave. Et voilà, qui fait que les personnes, elles peuvent pas voir le jour, en gros, et qu'elles ont pas de parloir, je crois. Voilà, pardon, tu voulais parler
des
places.
Ah non, mais c'est... Pourquoi pas, mais... enfin, donc les places, je sais pas, mais les chiffres de personnes qui ont été enfermées en CRA, enfin, il y a des rapports qui sont publiés par les assos qui font le service administratif, enfin, qui travaillent pour les CRA et qui font le service administratif, qui sont des prestataires de services. Et du coup, tous les ans, ils produisent des rapports. Donc, dans celui de 2024, qui a été publié en 2025, celui de 2025 n'est pas encore sorti, il disait que dans l'Hexagone, c'est-à-dire en France métropolitaine, il y a 16 228 personnes qui ont été enfermées, donc au cours de toute l'année. Donc, comme ils restent pas en même temps, c'est genre toutes les personnes qui sont restées 3 mois les unes après les autres, ça faisait 16 228 personnes. Et en Outre-mer, donc dans les colonies, il y a 24 364 personnes qui ont été enfermées. Ce chiffre est énorme. Et en fait, il est énorme parce que dans ces 24 364, il y en a 22 325 qui étaient dans le CRA de Mayotte. Mmh. Du coup, ce tout petit endroit qui enferme tellement de gens. Parce que des dingueries à Mardi. Enfin, la politique coloniale est très très intense à Mayotte. Voilà. Mais les places, j'ai pas encore trouvé.
Est-ce que vous avez envie de redonner vos contacts genre l'Insta, le blog, le NUM, je l'ai sous les yeux si jamais. C'est le 07 58 05 71 30. Et je sais pas si vous avez envie d'expliquer comment on fait du lien avec vous, comment c'est possible de soutenir les gens à l'intérieur ou quoi.
On a un tel qu'on se partage et on prend un peu les appels des personnes à l'intérieur et si elles ont envie de parler et ou d'avoir des parloirs et tout, bah on essaye de s'organiser entre nous pour venir voir. On peut apporter du soutien matériel, du tabac, des vêtements chauds ou quoi. Et voilà, c'est un peu ça.
Et quand il y a des luttes, on essaie de les soutenir aussi au mieux. Ah. Ouais, ça. Voilà, on fait tout type d'action, quoi. Et on sait que, notamment, faire des parloirs sauvages, ça peut plaire. On met de la musique, on crie, on fait des slogans, il y a des réponses et tout. Et voilà. En tout cas, on essaie de faire un soutien autant qu'on peut matériel, mais aussi du soutien dans les luttes qu'ils peuvent avoir à l'intérieur. Et voilà, et on avait envie de surtout visibiliser cet espace-là, voilà, comme on disait, en fait, que si peu de gens connaissent, et qui est vraiment, par exemple, à Marseille, en plein centre de la ville, peut-être que faire la comparaison, un CRA dans le sous-sol du sous-sol d'un comico, peut-être qu'on le voit pas, mais un CRA à Marseille, en fait, on passe devant tous les jours, donc voilà.
Ouais, il est vraiment à l'angle de l'autoroute de Plombières.
Ouais. Donc, on essaiera de donner des petites brèves plus régulièrement.
Et si vous voulez, j'ai trouvé. C'était juste en dessous des chiffres que j'avais juste avant. Il y a 25 CRA en France, donc 4 en Outre-mer. Et donc en tout, il y a 1959 places.
Ouais.
Et du coup, le projet des ministres de l'Intérieur qui se succèdent et qui disent tous la même chose, qui sont tous les mêmes FAF, c'est de doubler la capacité de rétention. Du coup, d'arriver à quelque chose comme 4000 au lieu de 2000. Quoi. Là, j'ai dit 1959, mais bon, c'était 2000 en gros. Il faut retenir un chiffre.
Donc voilà, donc vous pouvez nous contacter par le numéro qui a été donné, mais vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram. On a aussi un site internet qui s'appelle
Mars
Anticra. Donc voilà, vous pouvez nous appeler et aussi pour les proches des personnes qui sont enfermées dans le CRA aussi. On fait aussi du contact et du lien avec. Et n'hésitez pas à nous appeler. Voilà.
Et l'Insta, c'est Marseille Anticra. Si vous avez envie de le checker, que c'est possible.
Bah, trop bien. Merci de votre venue.
Merci la
coupe. Hâte de vous retrouver vous. Le mois prochain. Parce
dans un mois, ouais.
On se voit tous les mois à partir de maintenant.
Et on a, s'il y a besoin, on a aussi. En fait, on devait peut-être venir avec un témoignage, mais on n'arrive pas à avoir la personne au téléphone. Mais en tout cas, on a eu une proposition de musique. S'il y a envie de, à la fin de passer une musique du pote qui devait témoigner.
On va passer ça carrément.
Ah, trop bien.
Et ben merci beaucoup. C'est cool. Le feat Anticra Courte Échelle.
On commence à fatiguer.
Ouais, non, pardon. Moi, je voulais rajouter un truc, pas à propos de l'Anticra, mais de ce que disait tout à l'heure le pote de Transvénère 13. En fait, il a parlé de Jennifer. Je sais pas si vous en rappelez. Et du coup, je voulais un peu reparler de cette personne. On n'a pas de lettre de Jennifer, on n'a pas sa parole directe, mais par contre il y a un comité de solidarité entre copines, le COESCO, qui avait publié un tract en solidarité à Jennifer, qui était du coup à la maison d'arrêt de Seyss, et j'avais envie de vous lire des bouts et parler un peu d'elle. Le track, ça dit: nous sommes ici pour porter la voix d'une femme que vous avez peut-être croisée dans les rues de Toulouse et qui ne vous aurait pas laissé indifférent, indifférente. Cette femme, c'est notre amie Jennifer, une militante pute, queer et célébrité de quartier. Jennifer n'a peur de rien. C'est une militante qui chassait les putophobes à coups de god. Une sublime blonde avec la jupe la plus courte de tout Belfort. Mais aussi notre sœur, notre amie, notre girlfriend. Si aujourd'hui elle ne peut pas parler en son nom, c'est parce qu'elle est incarcérée depuis 9 mois à la prison de Saïs, dans la pire des conditions, en isolement, dans la prison pour hommes. Bon, du coup, ça date, je crois, de 2021. Du coup, je l'imagine dehors, on l'imagine dehors. Et pour parler de ce qu'elle a vécu quand elle était en tôle, l'administration pénitentiaire, sous couvert de sa sécurité, a préféré l'enfermer seule dans 9 mètres carrés. Et du coup, le comité des copines rappelle que l'isolement est une mesure punitive atroce et déshumanisante. Elle n'avait aucun contact en dehors des matons et des parloirs, et elle souffrait de transphobie. Plusieurs de ses proches n'ont pas eu de permis de visite pour aller la voir. La prison lui a bloqué l'accès à certains produits, comme un simple lecteur DVD ou du maquillage, sans aucune raison. Ses conditions de détention ont été indignes et maltraitantes, et ont pesé sur sa santé physique et mentale. Enfin, ça termine avec Free Jennifer. Et justice pour elle. On continuera de visibiliser le vécu de tous les prisonniers et prisonnières, et donc les tolards et tolards trans aussi. Moi, j'ai envie de rajouter ça.
Ouais.
Et on a des dernières nouvelles à faire passer.
Ouais. La Cour d'appel, on voulait aussi envoyer grave de la force à Humer, qui est un prisonnier qui est en attente de procès depuis 6 mois au Royaume-Uni. Il est accusé d'avoir tagué et peinturé un avion militaire dans une base militaire. Il s'est mis en grève de la faim depuis déjà 13 jours. Et hier, il a démarré une grève de la soif. Il a été entendu en réunion directe avec le chef de la prison. Il est sous surveillance médicale 24 sur 24. Son procès, il est censé démarrer en 2027, en janvier. Et donc, on voulait faire entendre ses revendications de grève de la soif, qui sont des demandes qui incluent 1. La libération immédiate sous caution. 2. Un procès équitable. 3. L'abandon des accusations pour terrorisme. 4. Réouverture de l'enquête nationale sur Gaza. Et 5. La publication des images filmées par les services secrets militaires britanniques sur le meurtre de travailleurs à Gaza. Voilà, grosse force à lui, qui a la grève de la soif, ça, c'est vraiment hyper hyper éprouvant. Voilà, vraiment, on voulait lui envoyer la force et donner cette info-là à nos auditeurs.
Ben, en vrai, ça fait tarpin peur. Enfin, on espère avoir vite des nouvelles de lui on n'a pas envie qu'il crève, quoi. Force à Humer, force à Mika.
Force à Mika.
Et en tout cas, dehors, il y a des gens qui le soutiennent. Parce que, enfin, aujourd'hui, il y a eu une grosse manif devant la prison qui est à l'ouest de Londres, où il est enfermé. Et les gens étaient très nombreux et ont réussi un peu à bloquer les entrées et les sorties. Bon, après, dans la presse, on lit qu'ils ont genre séquestré les matons qui ne pouvaient plus sortir et qu'ils ont. Ils sont accusés d'intrusion dans la tôle parce qu'ils ont réussi à casser une des barrières et rentrer dans un espace où seul le personnel est censé être pour qu'ils puissent les entendre. Et du coup, il y a 86 personnes qui ont été arrêtées pour ça. Mais en tout cas, enfin voilà, il y avait plusieurs centaines de personnes pour le soutenir dehors. Donc c'est
grave.
Le culot des gars, quoi. C'est genre, leur métier, c'est d'enfermer des gens. Tu les retiens quelques heures, ils disent qu'ils sont séquestrés. C'est intense.
Ben, peut-être qu'on va envoyer un petit son final.
Mais quand même, juste sur la séquestration, c'est les prisonniers et prisonnières qui sont séquestrés et les matons qui font grève, c'est quoi en fait? Quand il n'y a plus personne qu'à promenade, il n'y a plus de parloir. Ouais, c'est le monde à l'envers.
Il y avait encore des grèves de matons ce lundi.
À Moulins.
Et à plein d'endroits en vrai, ouais. Suite à ce qui s'est passé à Salon, mais dans.
Oui.
À plein de bois, à Valenciennes par exemple.
Et c'est ça.
Et voilà, on vous rappelle que les grèves de Mâton, c'est juste les prisonniers qui en pâtissent, c'est personne d'autre.
Ils ont même pas de douche, pas de promenade, parfois pas de bouffe. En tout cas, c'était le cas de Mika lundi, genre. Un dernier truc quand même, il y a la Peu Remix le 7 février.
En
soutien à Fabrice, un prisonnier guadeloupéen dont on a parlé plusieurs fois à la radio. Et du coup, pour que l'argent récolté puisse permettre à sa famille de lui rendre visite, qui se trouve en Guadeloupe, et aussi pour maintenir les communications qui coûtent une fortune. Voilà. Venez nombreux ou à écouter ou en direct depuis la tôle ou à la, dans les locaux de la radio. On vous attend. Et le son pour le pote que j'espère on entendra bientôt, qui se trouve au centre du canet de rétention. On passe où on va de Jules. Et merci pour ce soir. Force à tout le monde.
Gros pick up. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ciao, ciao.
Je me rappelle avant, quand y avait pas les sous.